Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Hulin, page 120, Daf Kuf Raf. Bonne écoute et bon limoud.
Amatnitin sur notre Mishnah. La Mishnah dit Haor Be'arotev Ve'akipa, etc. La peau, le jus de viande et les épices, etc. La Mishnah continue à mentionner les os et d'autres parties de l'animal. Mitztarfin letamet umatochlim s'associe avec la viande de l'animal pour compléter le volume d'œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit là-dessus, lo shanu ela etzem dehave shomer. Nous ne disons cela que le principe de l'enveloppe de protection s'applique uniquement lorsqu'il s'agit d'un os. Aval nima, mais un poil, lo havia shomer, n'est pas considéré comme étant une enveloppe de protection. Rabbi Yochanan Amar, tandis que Rabbi Yochanan dit, afilu nima nami havia shomer, même un poil peut être considéré comme étant une enveloppe de protection. Par conséquent, si ce poil se trouve à l'endroit où il y a de la chair, celui-ci protège la chair à cet endroit, comme nous le verrons, et peut transmettre l'impureté du cadavre animal, ou peut s'associer avec l'aliment pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Amar le Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan. Si tu dis que le poil est considéré comme étant enveloppe de protection, ou mi'ika shomer al gabe shomer, existe-t-il le principe de l'enveloppe de protection lorsque une enveloppe de protection se trouve sur une autre enveloppe de protection? Rabbi Yochanan lui répond, chilchule mechanchel, le poil traverse la peau, et à cet endroit, il protège la viande. Matkifla, Rav Acha a objecté là-dessus, et la meata, si c'est ainsi, tfilin herikadvinan, comment peut-on écrire les tfilin sur un parchemin? Haba inan ktivatama, pourtant nous avons besoin d'une écriture parfaite, veleka, et cette condition n'est pas remplie, puisque finalement, le parchemin est troué, il se trouve que la lettre est trouée. La Gemara dit là-dessus, Ishtamitite, lorsque Rav Acha a posé cette question, il a oublié Hadamre Bemaharava, ce que les sages disent en Eretz Israël, Kol Nekev Shehadio Overalav, tout trou dans un parchemin sur lequel l'encre passe, donc qui ne se remarque pas à l'écriture, et non Nekev n'est pas considéré comme étant un trou. Par conséquent, puisque le trou du poil qui traverse la peau ne se voit pas, nous considérerons que l'écriture est parfaite. Et tu veux, Rabbi Yochanan le Resh Lakish. Rabbi Yochanan a opposé à Resh Lakish la Mishnah suivante qui est enseignée plus loin d'Afkou Kabdalet, Or Sheyesh Alav Kezaïd Basar, de la peau d'un cadavre animal sur laquelle il y a un volume équivalent à celui d'une olive de chair, Hanogea Betsiv Hayotse Mimenu, celui qui touche un filament de chair qui sort de cette viande, ou Besahara Shekenegdo, ou bien celui qui touche un cheveu, un poil donc, qui se trouve en face de la viande, Tamé, deviendra impur parce qu'il a touché un cadavre animal. Maïlav Mishum Shomer, n'est-ce pas que c'est à cause du principe de l'enveloppe de protection? Nous considérons donc que le poil est une enveloppe de protection et c'est pour cela qu'il transmet l'impureté à celui qui touche le cadavre animal. Resh Lakish lui répond, Lo, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah, plutôt Mishum Yad, c'est à cause du principe du manche. Alors Rabbi Yochanan lui demande, Nima Achat Lemay Chazia, à quoi sert un seul poil? Il n'est pas suffisamment solide pour transporter la chair. Il ne devrait pas pouvoir être considéré comme manche. Resh Lakish lui répond que d'Amar Rabbi Ila, comme l'a dit ailleurs Rabbi Ila, Bemlaï Sheben Amlaïm, il s'agit d'un poil de la barbe de l'épi parmi d'autres poils. Hachanami, ici aussi nous dirons la même chose, Benima Sheben Hanimin, il s'agit d'un poil parmi d'autres poils. Donc, selon Resh Lakish, lorsqu'il y a plusieurs poils ensemble, ils sont suffisamment solides pour servir de manche et transporter la chair, même si ces poils ne se trouvent pas en face de la viande, ils pourront transmettre l'impureté du cadavre animal. Tandis que selon Rabbi Yochanan, même lorsqu'il y a un poil parmi d'autres poils, le principe du manche ne pourra pas être appliqué, et ce n'est que en tant qu'enveloppe de protection que l'impureté pourra être transmise, donc uniquement lorsque le poil se trouve en face de la viande. En la Gemara demande, Vehecha Itmar de Rabbi Ila, où est-ce qu'a été dite cette réponse de Rabbi Ila? L'Agma répond, Aha, Detnan, elle a été dite sur cette Mishnah qui est enseignée dans Maseret Uktsin, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Hamelai Shebeshibolim, un poil de la barbe de l'épi, Metamin, transmettent l'impureté à d'autres aliments, ou Mitamin, et reçoivent l'impureté, c'est-à-dire transmettent l'impureté au grain de blé, Ve'en Mitstafin, mais ces poils ne s'associent pas avec les aliments pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. La question se pose, Melaï le Maïchazia, à quoi peut bien servir un poil de la barbe de l'épi? Il n'est pas suffisamment solide pour porter l'épi. Il ne devrait pas pouvoir être considéré comme manche. En là-dessus, Amar Rabbi Ila. Rabbi Ila a donné la réponse, Bemlaï chez Ben Hamlaïm. Il s'agit d'un poil parmi d'autres poils. Lorsqu'ils sont tous ensemble, ils sont suffisamment solides pour porter l'épi et ils pourront transmettre l'impureté en tant que manche. Il est possible, cependant, comme nous l'avons dit selon la version précédente, que Rabbi Yochanan sera d'accord dans ce cas, que tous les poils de la barbe de l'épi forment un ensemble qui s'appelle la barbe de l'épi et pourraient être considérés comme manches. Mais lorsqu'il s'agit de poils de l'animal, il n'y a rien qui les lie, et si un seul poil ne peut pas servir de manche, lorsqu'il n'y a plusieurs ensembles, non plus, ils ne pourront pas servir de manche. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Roulin d'Af Kufiutet. Nous commençons le shiur de Maseret Roulin d'Af Kufraf à la fin de la 18e ligne, du haut de la page aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Veharotev » et le jus de viande s'associe avec la viande pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Apparemment donc, ce jus de viande n'est pas considéré comme étant un aliment en soi, mais en s'associant avec la viande, il sera aussi considéré comme étant un aliment. Alors la Gemara demande « Maïrotev » qu'est-ce que c'est que ce jus de viande dont il est question dans la Mishnah? La Gemara répond « Amar Rava Shumna » il s'agit de la graisse. Amarle, Abaye, Abaye lui pose la question, Huatsmo yetame tumatochlim, lui-même, cette graisse elle-même, devrait pouvoir recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. En d'autres termes, cette graisse elle-même devrait être considérée comme étant un aliment, même sans s'associer avec la viande. Et là, plutôt, Abaye dit, Chelev de Karish, il s'agit d'une espèce de glaire ou d'un jus produit par la viande et qui s'est gélifié. Alors la Gemara demande, Mai Iria Karish, pourquoi doit-on dire que ce jus de viande s'est gélifié et c'est seulement à ce moment qu'il s'associe avec la chair pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments, Kilo Karish Nami, même s'il ne s'est pas gélifié, il pourrait s'associer avec la viande. Damar Resh Lakish, Tsir Shalgabe Yerek, le jus qui se trouve sur un légume, Mitztaref Lekakotevet Beyom Akipurim, s'associe pour compléter le volume d'une date en ce qui concerne les lois de Yom Kippour. C'est-à-dire, celui qui mange un aliment d'un volume d'une date à Yom Kippour a transgressé l'interdiction de manger à Yom Kippour au point d'être condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. En là-dessus, Resh Lakish dit que le jus qui se trouve sur un légume s'associe avec le légume pour compléter le volume d'une date. Donc là aussi, le jus de viande devrait pouvoir s'associer avec la viande. La Gemara répond, Hatam, là-bas, concernant l'interdiction de manger à Yom Kippour, Mishum Yituve Da'atahu, il est question de se remettre du jeûne. Et c'est pour cela qu'en ayant mangé le volume d'une date, nous considérons qu'une personne s'est quelque peu remise de son jeûne. Elle a donc transgressé l'interdiction de manger à Yom Kippour. Bechol Dehu, Miat Vadate, les Chachamim ont évalué qu'avec n'importe quoi, une personne se remet du jeûne, même avec le jus qui se trouve sur le légume. C'est pour cela que ce jus s'associera avec le légume pour compléter le volume d'une date. Haha, mais ici, Mishum Itztarufehu, il est question de s'associer avec un aliment. Il faudra donc qu'il s'agisse ici d'un aliment. Par conséquent, Ikarish, si ce jus s'est gélifié, Mitztaref, il pourra s'associer avec la viande. Ilokarish, mais s'il ne s'est pas gélifié, c'est donc un liquide. L'omitztaref, il ne pourra pas s'associer avec un aliment pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Vehakipa », c'est les petits morceaux qui tombent au fond de la casserole. Ces petits morceaux s'associent avec la viande pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Ces morceaux tout seuls ne sont pas considérés comme étant des aliments. Alors la Gemara demande « Maikipa », qu'est-ce que c'est que ce « kipa », ces petits morceaux dont parle la Mishnah ?« Amarava firma » c'est des petits morceaux de viande qui se décomposent pendant la cuisson de la viande et qui tombent au fond de la casserole. Amarle, Abaye, Abaye lui a posé la question suivante, Huatsmo yetame tumatochlim, lui-même, ces petits morceaux à eux-mêmes devraient pouvoir recevoir ou transmettre l'impureté des aliments, puisque finalement, il s'agit d'aliments. Et là, Marapapa, plutôt Rapapa dit, Tavlin, il s'agit ici d'épices qui tombent au fond de la casserole. À eux-mêmes, ils ne sont pas mangeables, mais ils peuvent s'associer avec la viande pour compléter le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments, puisqu'ils se mangent en même temps que la viande. Knan Hatam, il a été enseigné là-bas dans une Mishnah. En fait, comme il est écrit dans la note marginale, il ne s'agit pas d'une Mishnah, mais plutôt d'une Braïta. Hikfa et Hadam, une personne qui a coagulé le sang par le moyen du feu, Ve'achlo, et il l'a mangé, Oshimcha et Achelev, ou bien s'il a fait fondre de la graisse interdite par le feu, Ve'gamo, et il l'a gobé, Chayav, il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdiction de manger du sang ou de la graisse interdite, il sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Et cela, bien que concernant le sang, la Torah parle de l'interdiction d'en manger, or le sang est liquide. Forcément donc, la Torah interdit de consommer le sang liquide. Et ainsi, concernant la graisse, qui est en général solide, donc c'est uniquement à l'état solide que la Torah l'aurait interdit à la consommation, il se rend quand même coupable d'avoir transgressé cette interdiction, même après avoir transformé ses aliments interdits, donc en coagulant le sang ou en liquéfiant la graisse interdite. Comme le précisent le Ramban et le Ran, le chidouche spécial de cette braïta est que cette personne s'est rendue coupable d'avoir transgressé ses interdictions, bien que ce n'est pas la manière normale de consommer ces aliments interdits. D'ailleurs, c'est pour cela que nous aurons besoin de psukim spéciaux pour nous apprendre que la personne a transgressé ses interdictions de cette manière. Alors la Gemara demande, Bishlama hikpa et adam ve'achlo. On comprend bien encore le cas de celui qui a coagulé le sang par le feu et l'a mangé, qu'il ait transgressé ses interdictions, bien que ce n'est pas la manière normale de manger le sang, qui vande akfe, puisqu'il l'a coagulé pour le manger, archuvé, archevé, il lui a accordé de l'importance, donc il a accordé l'importance à ce sang qu'il consomme, c'est pour cela qu'il aura transgressé cette interdiction. Puisque finalement, la Torah parle de l'interdiction de manger du sang, et dans ce cas, il l'a mangé. Et là, himcha et achelev vegamo, mais le cas de celui qui a fait fondre la graisse par le feu, et la gobé, achil aktive. Pourtant, la Torah parle de l'interdiction de manger de la graisse interdite, vehala vachilahi, et consommer la graisse interdite de cette manière, après l'avoir fondue, n'est pas mangé. En fait, comme nous l'avons expliqué, ce n'est pas la manière normale de manger la graisse. Et en plus, ici, il ne l'a pas mangé, mais plutôt, il l'a bu. Cette boisson n'est pas inclue dans l'interdiction de manger de la graisse interdite. L'Agma répond, Amar Resh Lakish, Amar Gra, le pasouk dans Vaikra Zayin concernant l'interdiction de consommer la graisse, emploie le terme de Nefesh Am. En effet, le pasouk dit, celui qui consomme de la graisse interdite, cette âme sera retranchée dans le monde futur. Le terme de nefesh peut être aussi traduit par le terme de désir. On pourrait donc interpréter le pasouk de la manière suivante, et cette personne sera retranchée dans le monde futur pour avoir calmé son désir. Les rabot est acheté, cela vient inclure même celui qui boit la graisse interdite après l'avoir fait fondre. Et cela parce que finalement, après avoir bu cette graisse interdite, il a calmé son désir. Tanya Nami Gabe Hamet Kiagavna. Il a été enseigné une braïta de la même manière à propos de l'interdiction de consommer du chametz à Pessah. La braïta dit Himchahu vegamo, celui qui a fait fondre du pain ou de la pâte et il l'a bu. Him chametzu, s'il s'agit d'une pâte levée, donc chametz qui est interdite à la consommation à Pessah, à Nushkaret, il sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Im Matsahi, s'il s'agit d'une pâte non levée, qui est permise à la consommation pendant Pessah, En Adam Yotzebah Yedechovato Be Pessah, une personne ne se rendra pas quitte de son obligation de consommer de la matzah à Pessah. Alors là-dessus, la Gemara demande, Bishlama, on comprend bien encore le passage de la Braïta qui dit Im Matsahi, s'il s'agit d'une pâte non levée, En Adam Yotzebah Yedechovato Be Pessah, une personne ne se rendra pas quitte de son obligation de consommer de la matzah pendant Pessah. Et cela parce que le pasouk dit concernant l'obligation de manger de la matzah à Pessah lechem oni, du pain de misère, Amar Rachamana, c'est ainsi que le pasouk s'exprime, vehai, et ce pain qu'on a fait fondre, lav lechem onihu, ce n'est pas un pain de misère. Et là, im matzahu anushkaret, mais le passage de la Breita qui dit que s'il s'agit d'une pâte levée interdite à la consommation pendant Pessah, il sera condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Pourquoi sera-t-il condamné? Achila Ktiva Be. Pourtant, le pasouk emploie le terme de Achila, manger, concernant l'interdiction de manger le Hametz à Pessah. L'Agma répond, Amar Resh Lakish, Amar Gra, le pasouk dit dans Shemot Yudbet, concernant l'interdiction de consommer le Hametz à Pessah, le pasouk emploie le terme de Nefesh, l'âme. Comme nous l'avons dit, ce terme peut être aussi traduit par désir. Et en fait, le pasouk voudrait dire, la personne sera condamnée au retranchement dans le monde futur pour avoir calmé son désir. Les rabots est acheté, cela vient inclure celui qui boit du hametz. En effet, la personne a calmé son désir, même après avoir bu du hametz. Betania nami gabe nivlat oftahor ki agavna. Il est enseigné aussi dans une braïta à propos du cadavre d'un oiseau pur. Une personne qui en consomme devient impure. D'ailleurs, c'est la seule manière que le cadavre d'un oiseau pur transmet l'impureté, et c'est le seul cas où l'impureté est transmise par la consommation. En la Breta dit, Himchahu Beor, s'il a fait fondre le cadavre d'un oiseau pur par le feu et il l'a mangé, Tamé, la personne devient impure. Bechama, mais s'il l'a fait fondre par le soleil, Tahor, la personne qui en mange reste pure. Vehavdinanba, et nous nous sommes posé la question suivante à propos de cette Breta. Achila Ktivbe. Pourtant, le pasouk dans Vaikra Yudzaïn emploie le terme de Achila, manger. Par conséquent, celui qui en boit, après l'avoir fait fondre, ne devrait pas devenir impur. L'Agma répond, Amar Resh Lakish, Amar Gra. Le pasouk dit, concernant l'impureté transmise à celui qui consomme le cadavre d'un oiseau pur, Nefesh, l'âme. En effet, le pasouk dit, l'âme qui consomme un cadavre animal, il s'agit ici d'un cadavre d'un oiseau, permis à la consommation, deviendra impur. En le terme de nefesh peut être traduit aussi, comme nous l'avons dit précédemment, par le terme de désir. En fait, cela voudrait dire celui qui calme son désir en ayant consommé du cadavre d'un oiseau pur, il deviendra impur. Les rabots est acheté, cela vient inclure même celui qui en boit, puisque finalement, ainsi, il a calmé son désir. En la Gemara demande, Yahri, si c'est ainsi, si nous l'apprenons d'un pasouk, Bechamanami, même s'il l'a fait fondre par le soleil, la personne qui en mange devrait devenir impure. La Gemara répond, Bechama, s'il a fait fondre le cadavre d'un oiseau par le soleil, Isruche Masrach, en fait, la chair a pourri et ne peut plus transmettre l'impureté, puisque cette chair n'est plus apte à être mangée. Finalement, nous avons trois psukim, un pasouk concernant celui qui boit de la graisse interdite fondue, un autre pasouk concernant celui qui boit du hametz fondu à Pessah, un troisième pasouk concernant celui qui boit du cadavre d'un oiseau pur. En la Gemara dit, Utsriche, et nous avons besoin de ces trois psukim, des ikatavra hamanach elev, car si la Torah s'était contentée uniquement de nous enseigner l'interdiction de boire de la graisse interdite fondue, hametz lo atemine, on n'aurait pas pu déduire de là qu'il soit aussi interdit de boire du hametz fondu, sheken lo haita lo shata kosher, car la graisse a cela de particulier, c'est qu'elle n'a jamais eu de moment où elle était permise. Il est possible donc que la Torah était plus stricte à son sujet et aurait interdit même d'en boire, tandis que le hametz était permis avant Pessah, il est possible que la Torah ait été moins stricte et n'aurait pas interdit la boisson du hametz fondu. Nevela lo atemine, et on n'aurait pas appris de là que celui qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu devient impur. C'est kenanush karet, car celui qui consomme de la graisse interdite est sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, ce qui n'est pas le cas pour celui qui consomme du cadavre d'un oiseau permis. Il est possible donc que la Torah ait été moins stricte à son sujet et ne décrète pas l'impureté à celui qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu. Et si la Torah s'était contentée uniquement de nous enseigner l'interdiction de boire du hametz fondu à Pessah, on n'aurait pas appris de là qu'il soit aussi interdit de boire de la graisse fondue interdite, car l'interdiction de consommer le hametz à Pessah a cela de particulier qu'il n'y a aucune exception à la règle. Le hametz est toujours interdit à la consommation pendant Pessah. Tandis que, en ce qui concerne la graisse interdite, il y a une exception. En effet, la graisse d'un animal sauvage, comme le cerf ou la biche, est permis à la consommation. Onevela loa tiamine, Et on n'aurait pas appris non plus de ce passouk que celui qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu devient impur. Chez Kenanush Karet, car celui qui consomme du hametz est sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, ce qui n'est pas le cas pour celui qui consomme un cadavre d'un oiseau permis. Par conséquent, il est possible que la Torah ait été moins stricte à son sujet et n'aurait pas décrété l'impureté à celui qui en boit. Et si la Torah s'était contentée uniquement de nous enseigner la loi pour celui qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu, on n'aurait pas pu apprendre les autres choses, c'est-à-dire qu'il soit interdit de boire de la graisse interdite fondue ou du chametz à Pessah, chez Ken Metam'a, car le cadavre de l'oiseau pur a cela de particulier, c'est qu'elle transmet la pureté à celui qui en consomme, ce qui n'est pas le cas pour la graisse interdite et le chametz à Pessah. Il se peut donc que la Torah ait été moins stricte à leur sujet et n'aurait pas interdit d'en boire après qu'ils aient été fondus. Finalement donc, nous avons besoin de ces trois psukim. La Gemara poursuit, Chadam et Chadal Oatia, on ne peut pas apprendre d'un seul pasouk qu'il soit interdit de boire un aliment interdit fondu. Titi Chadam Itarte, mais on pourrait en apprendre un de deux psukim qui auraient été écrits. La Gemara demande, Hé Titi, lequel peut-on apprendre de deux autres? L'Olichtov Rachamana bin Vela, si tu veux dire que la Torah ne devait pas écrire la loi concernant celui qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu, et qu'on l'apprenne des deux autres, c'est-à-dire des psukim concernant celui qui boit de la graisse interdite fondue, et de celui qui parle de celui qui consomme du chametz fondu à Pessah. C'est impossible, parce qu'on peut refuter en disant, Malehanach, comment peux-tu l'apprendre de ces deux psukim chez Kenanush Karet, alors que celui qui en consomme est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur, ce qui n'est pas le cas pour celui qui consomme du cadavre d'un oiseau pur. L'olichtov rachmana bechametz, si tu veux me dire que la Torah aurait pu ne pas écrire l'interdiction de boire du chametz fondu à Pessah, vetitime anach, et qu'on apprenne des deux autres, c'est-à-dire du pasouk concernant celui qui boit de la graisse interdite fondue et de celui qui parle d'une personne qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu. C'est impossible, parce qu'on peut réfuter en disant « Ma lehanach, comment peux-tu l'apprendre de ces deux psukim ?»« Sheken lo haita lahen sha'ata kosher » alors qu'à aucun moment, ils n'ont été permis, alors que le chametz était permis avant Pessah. « Lo lichtov rachamana bechelev » et si tu veux me dire que la Torah aurait pu ne pas écrire le pasouk concernant celui qui boit de la graisse interdite fondue, « Vetiti me'anach » et qu'on apprenne des deux autres psukim, c'est-à-dire du pasouk concernant celui qui boit du chametz fondu à Pessah, et de celui qui parle d'une personne qui boit du cadavre d'un oiseau pur fondu. C'est impossible, parce qu'on peut réfuter en disant « Malehanar, comment peux-tu l'apprendre de ces deux psukim, Sheken lohutar miklalan ?» alors qu'il n'y a aucune exception à la règle, ils sont interdits en toutes circonstances. « Tomar bechelev, peux-tu dire la même chose en ce qui concerne la graisse interdite, Shehutar miklalo, alors qu'il existe une exception à la règle ?» Dans certaines circonstances, la graisse interdite est permise. En Lagmar demande « Umaynihu ?» Où est cette exception à la règle? Il est ma chelev behema le gavoa. Si tu veux me dire que l'exception est que la graisse interdite provenant d'un animal domestique est permise pour le ciel, autrement dit, on peut l'offrir comme sacrifice. Si c'est ainsi, nevelanami ishtaray. Le cadavre animal a été aussi permis pour le ciel, c'est-à-dire pour être offert comme sacrifice. En effet, melikat of le gavoa. En effet, un oiseau offert comme korbanola est sacrifié par le Kohen qui fait la melika en plantant son ongle dans la nuque de l'oiseau. Cet oiseau est interdit à la consommation parce qu'il n'a pas été abattu rituellement avec un couteau. Quand même, comme sacrifice, il est permis. Finalement, il existe une exception à la règle aussi pour le cadavre animal. Forcément, ce n'est pas l'exception à la règle dont on parle à propos de la graisse interdite, parce que sinon, on pourrait la prendre de ces deux psukim que nous avons dit précédemment. Ve'ela, plutôt nous dirons Chelev Chaya, l'exception à la règle, c'est que la graisse interdite provenant d'un animal sauvage, comme le cerf ou la biche, est permise à la consommation, le hédiot, à un profane. Alors la question se pose, Nevelanami, en ce qui concerne le cadavre, aussi Ishtaraï a été permise. Il existe donc aussi une exception à la règle. En effet, Melika de Chatataof le Kohanim, un oiseau offert comme Korban Chatat, qui a été sacrifié par le moyen de la melika, lorsque le Kohen a planté son ongle dans la nuque de cet oiseau, et la viande de cet oiseau est permise au Kohanim. Alors que, comme nous l'avons dit précédemment, en général, un oiseau abattu de cette manière est interdit à la consommation. Donc là aussi, si c'était cela l'exception à la règle pour la graisse interdite, on pourrait la prendre de ces deux psukim. L'Agma répond, le Olam, toujours pourrais-je te dire que l'exception à la règle dont on parle, c'est Chelev Chayal Ediot, la graisse interdite provenant d'un animal sauvage, comme le cerf ou la biche, est permise aux profanes, c'est-à-dire à tout le monde. Ou des kakashalach. Et en ce qui concerne la question que tu t'es posée, Kohanim, des Kohanim, qui peuvent consommer ce que l'on considère en général le cadavre d'un oiseau, ce n'est pas considéré comme une exception à la règle. Et cela parce que Kohanim Mishulchan Gavoa Kazahu, en fait, ce que les Kohanim mangent, reste dans le cadre d'un sacrifice qui a été offert au ciel. Par conséquent, en ce qui concerne la graisse interdite, il existe une exception à la règle, même pour n'importe qui, lorsque cette graisse provient d'un animal sauvage, tandis qu'en ce qui concerne le cadavre animal, il n'existe pas d'exception à la règle en ce qui concerne les hommes profanes, mais uniquement en ce qui concerne ce qui est offert comme sacrifice. On ne pourra donc pas apprendre qu'il soit interdit de boire de la graisse interdite fondue, des psukim, concernant le cadavre et le chametz à Pessah. Et il faudra donc un pasouk particulier pour dire que celui qui boit du cadavre d'un oiseau permis et qui a été liquéfié est devenu aussi impur. En l'agmar demande, Veha de Tanya, et voici ce qui est enseigné dans une braïta concernant les reptiles morts qui sont interdits à la consommation. La braïta interprète le pasouk dans Vaikra Yudalef qui dit Hatmeim, voici ceux qui sont impurs parmi les reptiles, le He est en plus, les Esor Tsiran Verotvan Vekipa Shelahem. Ce He vient interdire le jus produit par la salaison de ces reptiles morts et le jus de viande et les petits morceaux de viande et d'épices qui tombent au fond de la casserole. Finalement, nous apprenons de ce pasouk que le reptile mort liquéfié est aussi interdit à la consommation. L'Agmara demande, Lamali, pourquoi a-t-on besoin de ce pasouk particulier, Ligmar Mehane? On n'a qu'à l'apprendre des psukim que nous avons vus précédemment, c'est-à-dire des psukim concernant la graisse interdite, concernant le chametz et concernant le cadavre d'un oiseau. L'Agmara répond, Tzriche, nous avons besoin d'un pasouk particulier pour le reptile mort. Dei lo katavra chamana, car si la Torah n'avait pas écrit de pasouk particulier concernant le reptile mort, Havamina, j'aurais dit, Dayo le baminadin, lihiot kanidon. On se contentera d'accorder à ce que l'on va apprendre le statut existant déjà à l'endroit dont on voulait le déduire. C'est-à-dire, on accorderait au reptile mort le statut existant déjà à propos des autres interdictions que nous avons mentionnées. Et nous dirions donc, Ma Hatam, de la même manière que là-bas concernant les autres interdictions que nous avons mentionnées, Ad Deika Kazaït, l'interdiction n'existe pas jusqu'à ce qu'il y ait un volume équivalent à celui de nos livres. Afhachanami, même ici aussi concernant les reptiles morts, Ad Deika Kazaït, l'interdiction n'existera pas jusqu'à ce qu'il y ait un volume équivalent à celui d'une olive. Or, nous apprenons que concernant les reptiles morts, l'interdiction existe déjà d'en consommer dès qu'il y a le volume équivalent à celui d'une olive, de la même manière que l'impureté du reptile mort existe déjà lorsqu'il y a un volume équivalent à celui d'une lentille. Donc finalement, s'il n'y avait pas de pasouk particulier, on n'aurait pas pu déduire que lorsque le reptile mort a été liquéfié, il est interdit d'en consommer lorsqu'il y a un volume équivalent à celui d'une lentille.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Kuf Kaf Amud Bet. La Gemara demande, Velirtov Rachamana Beshratzim, la Torah n'avait qu'à écrire un pasouk particulier concernant les reptiles morts, Veletu Hanar, Veligmeru Minayhu, et on n'a qu'à apprendre les autres interdictions de l'interdiction des reptiles morts. On n'a qu'à apprendre donc que la graisse interdite, le chametz et le cadavre d'un oiseau pur qui ont été liquéfiés sont interdits de ce pasouk. L'Agma répond, Mishum dikal et mefrach, c'est parce que nous pouvons réfuter ce raisonnement en disant, Maleshatsim, comment peux-tu l'apprendre de l'interdiction des reptiles morts, Sheken tumatan bemashehu, alors que l'impureté de ces reptiles morts existe même pour une très petite quantité. En effet, comme nous venons de le dire, l'impureté du reptile mort existe déjà lorsqu'il y a un volume équivalent à celui d'une lentille, ce qui n'est pas le cas pour les autres interdictions. C'est pour cela donc que nous avons besoin des trois psukim pour les interdictions mentionnées plus haut, en plus de celui qui existe concernant les reptiles morts. La Gemara demande, Veha de Tanya, mais voici ce qui est enseigné dans une Braïta, Hatevel, qui est un des produits de la terre dont on n'a pas prélevé encore le maaser, Veha Chadash, et la nouvelle récolte de céréales qui a été semée avant Pessah, avant le deuxième jour de Pessah, Veha Hekdesh, et ce qui a été sanctifié, Veha Shvi'it, et ce qui a poussé pendant la septième année de la Shemitah, Veha Kilaim, et ce qui est un produit d'un mélange de graines ou de céréales dans la vigne, qui est interdit à la consommation. Kulan, en ce qui concerne toutes ces interdictions, Mashkin, Hayotzin, Mehem, les liquides qui en sortent, Kemotan, sont comme eux, ont le même statut. C'est-à-dire, les liquides produits par ces interdictions sont interdits au même titre que le produit lui-même. Alors la question se pose, Menalan, d'où le sait-on? Vechitema, et si tu veux me répondre, Ligmar, Mehanar, on n'a qu'à l'apprendre des psukim que nous avons vus plus haut concernant l'interdiction de la graisse interdite, du hametz et du cadavre de l'oiseau pur. C'est impossible, parce que Malehanar, Shekenisur, Habamelav, comment peux-tu l'apprendre de ces interdictions alors qu'il s'agit d'interdictions qui viennent d'eux-mêmes, sans intervention de l'homme? Tinar, Hechadisur, Bamelav, on peut encore comprendre dans le cas où il s'agit d'une interdiction qui vient d'elle-même, sans intervention de l'homme, comme par exemple le tevel, qui est un produit de la terre avant le prélèvement du maaser, ou le chadash, la nouvelle récolte, etc. On peut l'apprendre donc des psukim que nous avons mentionnés, Echad elav isur abba me'elav, mais lorsqu'il ne s'agit pas d'une interdiction qui vient d'elle-même, mais qui nécessite une intervention de l'homme, comme le hekdesh, ce qui a été sanctifié, qui est interdit parce que l'homme a agi en sanctifiant ce produit. Menalan, d'où le sait-on que le jus produit par un aliment qui a été sanctifié est aussi interdit au même titre que le produit lui-même? L'agma répond, Gamrinan Mibikurim, nous l'apprenons des psukim concernant les prémices qui sont offerts au Beit Hamikdash, puisqu'il s'agit là aussi d'une interdiction causée par l'intervention humaine, parce que c'est l'homme qui a désigné ses prémices. Nous sommes Masechet Chulin Dav Kufra Famudbet, à la 9e ligne du haut de la page. La Gemara jusqu'à présent a essayé de déterminer d'où savons-nous qu'un produit interdit à la consommation qui a été transformé en liquide est interdit au même titre que le produit lui-même. La Gemara a apporté à ce sujet 4 psukim. Un pasuk qui nous enseigne que la graisse interdite fondue est interdite à la consommation au même titre que la graisse elle-même à l'état solide. Le deuxième pasuk nous enseigne que du chametz rendu liquide est interdit à Pessah au même titre que le chametz lui-même. Le troisième pasouk nous enseigne que celui qui mange du cadavre d'un oiseau pur qui a été rendu liquide est devenu impur de la même manière qu'il le deviendrait s'il mangeait le cadavre de l'oiseau lui-même. Le quatrième pasouk nous enseigne que le reptile mort rendu à l'état liquide est interdit au même titre que le reptile mort. La Gemara a aussi expliqué pourquoi nous avons besoin de ces 4 psukim. Puis la Gemara a amené une braïta qui dit la chose suivante. Du tevel, qui est un produit de la terre dont on n'a pas prélevé les prélèvements, ou bien la nouvelle récolte de céréales avant le deuxième jour de Pessah, ou bien un aliment qui a été sanctifié, ou bien les aliments produits la septième année, donc l'année de la Shemitah, ou bien un produit d'un mélange d'une vigne avec des céréales, ce mélange est interdit à la consommation. Concernant toutes ces interdictions, la Braïta dit que les liquides produits par eux sont interdits au même titre. Alors, la question se pose, d'où le savons-nous? Alors, la Gemara admet qu'il est possible d'apprendre certaines des interdictions que nous avons mentionnées, des 4 psukim que nous avons mentionnées plus haut. Il s'agit du genre d'interdiction qui n'a pas été créé par l'homme, comme le tevel, qui est un des produits de la terre avant le prélèvement du maaser, ou bien la nouvelle récolte avant le deuxième jour de Pessah, ou bien ce qui est produit pendant la septième année, ou le produit d'un mélange. Mais ce qui a été sanctifié, donc rendu hekdesh, Il s'agit d'une interdiction créée par l'homme. Par conséquent, on ne pourra pas déduire de ces quatre psukim que le liquide produit par ce produit interdit sera interdit au même titre que le produit lui-même. Alakma répond, nous l'apprenons des bikurim, ce sont les prémices offertes au Beit Hamikdash. Ces prémices sont interdites à la consommation pour un Israël. Seul le Kohen peut en consommer. Il s'agit là aussi d'une interdiction créée par l'homme, parce que c'est l'homme qui désigne les fruits qui seront offerts comme prémices. De la même manière que le liquide produit par les prémices sont interdits à la consommation, le liquide produit par un aliment qui a été sanctifié sera aussi interdit à la consommation. La Gemara demande au Bikurim Gufayhu Menalan, d'où sait-on que le liquide produit par les prémices sont aussi interdits au même titre que les prémices eux-mêmes? La Gemara répond, des Tané Rabbi aussi, car il a été enseigné dans une Braïta par Rabbi aussi. Lorsque le Passouk dit concernant les prémices dans Dvarim Kavav, pris le fruit, tu amèneras du fruit de la terre. Nous apprenons de là, pris à ta mévie, tu ne peux amener comme prémices que les fruits eux-mêmes, vi à ta mévie mashke, mais tu ne pourras pas amener des liquides produits par ces fruits. Hevi anavim vedarchan minayin, si une personne a emmené des raisins, donc les a désignés pour les prémices, puis après cela, il les a pressés, d'où sait-on qu'ils pourront être offerts comme prémices? Il répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit, ta vie, tu emmèneras. Ceci est un terme général pour inclure même le liquide produit par les fruits. Donc, selon Rabbi aussi, on ne peut désigner que des fruits pour les offrir comme prémices, mais après cela, s'ils sont pressés, ils pourront être offerts comme prémices. En tout cas, nous voyons que le liquide produit par les prémices a le même statut que les fruits désignés comme prémices. On pourra donc apprendre des lois de Bikurim qu'un liquide produit par un aliment qui a été sanctifié est aussi interdit au même titre que l'aliment lui-même. La Gemara demande, Ikal Mifrach, on peut réfuter ce raisonnement en disant, Ma le Bikurim, comment peux-tu l'apprendre des lois des prémices, Sheken Teunin Kriya Ve'anacha? Alors que pour l'offrande des prémices, il faut lire le passage prévu dans la Torah, dans Dvarim Kafav, et poser les prémices devant l'autel, ce qui n'est pas le cas pour un aliment qui a été sanctifié. Lagman répond, et là plutôt, Gamar Mitruma, on l'apprend des lois de la Truma, qui est le premier prélèvement donné au Kohen. Les liquides produits par la Truma est interdit au même titre que le fruit lui-même. Nous pourrons apprendre de là aussi que le liquide produit par l'aliment qui a été sanctifié est interdit au même titre que l'aliment lui-même. Alakmar demande au Truma Gufah Menalan, d'où sait-on que le liquide produit par la Truma est interdit au même titre que le fruit lui-même? Lagman répond, « Dit itkash le bikurim » car la Truma a été comparée au bikurim par juxtaposition. « De amarmar » car il a été dit ailleurs, lorsque le Passouk dit dans Dvarim Yudbet, « Tu ne pourras pas manger en province, donc en dehors de la ville d'Yerushalayim, tes sacrifices, etc. ou Truma tiadecha » et le prélèvement de ta main. Forcément, il ne s'agit pas de la Truma, car le Kohen peut manger la Truma n'importe où. Forcément, Elou Bikurim, il s'agit des prémices que le Kohen ne peut consommer que dans la ville de Yerushalayim. Puisque le Passouk appelle les Bikurim Truma, ils ont été comparés. De la même manière donc que les liquides produits par les prémices sont interdits au même titre que les fruits eux-mêmes, les liquides produits par la Truma seront interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. On pourra apprendre aussi de la Truma que les liquides produits par un aliment qui a été sanctifié seront interdits au même titre que les aliments eux-mêmes. La Gemara demande, on peut réfuter en disant, « Ma le Truma, comment peux-tu l'apprendre des lois de la Truma ?»« Sheken chayavin aleha mita vechomesh » Alors que l'Israël qui en consomme est condamné à mourir par châtiment divin s'il l'a consommé volontairement, et s'il l'a consommé involontairement, il devra, en plus de la valeur de la Truma, payer une amende d'un cinquième de la valeur de la Truma, ce qui n'est pas le cas pour celui qui mange un aliment qui a été sanctifié. En effet, comme il est enseigné dans Maseret Sanhedrin d'Arpe Gimel, celui qui mange ou qui tire profit d'un objet qui a été rendu Ekdesh est condamné uniquement à une peine de flagellation selon les Chachamim. Finalement, on ne peut pas apprendre des lois de Truma qu'un liquide produit par un aliment rendu Ekdesh est aussi interdit au même titre que le fruit lui-même. L'Agma répond, et là plutôt Gamar Mitarvayu, on l'apprend des deux, Mitruma ou Bikurim, à la fois de Truma et des bikurim, que le liquide produit par un aliment rendu ekdesh est interdit au même titre que le fruit lui-même, de la même manière que nous le voyons pour la trauma et les prémices. Alors la Gemara demande, on peut le réfuter en disant mal le trauma au bikurim, comment peux-tu l'apprendre des lois de trauma et de bikurim chez Ken Chavin Alehem Mita Vechomesh, alors que le Israël qui en consomme est condamné à mourir par châtiment divin s'il les mange volontairement, et s'il les mange involontairement, il devra payer, en plus de la valeur de la trauma ou des bikurim, un cinquième de la valeur de ce qu'il a mangé. Ce qui n'est pas le cas, comme nous l'avons dit, pour celui qui consomme un aliment rendu ekdesh. L'Agma répond, et là plutôt, Atia mitruma vechad mehanach. Nous l'apprenons à la fois de truma et d'un des quatre psukim que nous avons mentionné plus haut, Omi bikurim vechad mehanach, ou bien nous l'apprenons du pasouk concernant les prémices et d'un des quatre psukim que nous avons mentionné plus haut. Plus précisément, nous l'apprendrons de truma ou de bikurim et du pasouk concernant le cadavre de l'oiseau, voire le tosfot. C'est-à-dire, nous l'apprendrons de truma ou de bikurim, donc que le liquide produit par un aliment rendu ekdesh est interdit au même titre que le fruit lui-même, lorsqu'on voudra réfuter que celui qui consomme la truma est condamné à mourir par châtiment divin, ce qui n'est pas le cas pour celui qui consomme un aliment rendu ekdesh, on prouvera du pasouk concernant le cadavre de l'oiseau, pour lequel il n'y a pas de condamnation à mort, et quand même, celui qui consomme le liquide produit par ce cadavre est quand même devenu impur. Si on veut réfuter en disant qu'on ne peut pas l'apprendre des lois concernant le cadavre de l'oiseau parce qu'il s'agit d'une interdiction qui n'a pas été créée par l'homme, on prouvera le contraire des lois de la Touma. Finalement, on prendra le point commun entre les deux, c'est-à-dire entre la Touma ou les Bikurim et le cadavre de l'oiseau, qui sont des interdictions, et les liquides produits par eux sont interdits au même titre que le fruit lui-même, ainsi aussi pour l'aliment rendu ekdesh, le produit produit par lui sera interdit au même titre que l'aliment lui-même. En la Gemara demande Vehad etnan en ce qui concerne ce qui est enseigné dans la Mishnah dans Maseret Trumot Perek Yud Alef Mishnah Bet. La Mishnah dit Dvash Tumarim, du miel de date Veyen Tapuchim et du vin de pomme, autrement dit du cidre Vechometz Sitzvaniot, et du vinaigre produit par des raisins divers qui ne mûrissent jamais et qu'on utilise pour fabriquer du vinaigre, ou char mine perot shel truma, et du liquide produit par n'importe quel autre fruit de truma, à part le vin et l'huile. Rabbi Eliezer mechayev keren bechomesh. Rabbi Eliezer condamne celui qui en consomme involontairement à payer le capital et un cinquième en plus. Rabbi Yoshua poter, tandis que Rabbi Yoshua exempte celui qui en consomme involontairement de payer ce supplément d'un cinquième. Alors la question se pose, mais Mike Pligué, en quoi discutent Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer? L'Agma répond, leur sujet de discussion est le suivant. Bedoun mina ou mina, lorsqu'on apprend quelque chose d'un endroit, on l'apprend entièrement de cet endroit, ou bedoun mina veoke beatra, ou bien lorsqu'on apprend quelque chose d'un endroit, on le laisse quand même dans le contexte dans lequel il se trouve camuflégué, c'est cela donc leur sujet de discussion. L'Agma précise, Rabbi Eliezer savar, Rabbi Eliezer pense doun mina ou mina. Lorsqu'on apprend quelque chose d'un endroit, on l'apprend entièrement de là-bas. Donc puisque, comme nous l'avons dit précédemment, nous apprenons les lois de Truma, des lois de Bikurim, et nous disons donc « Ma Bikurim Mashkim Hayotse Mehen Kemotam » de la même manière qu'en ce qui concerne les prémices, les jus produits par les fruits désignés comme prémices sont interdits au même titre que les prémices. « Af Truma Nami » ainsi aussi en ce qui concerne la Truma, « Mashkim Hayotse Mehen Kemotam » les liquides produits par les fruits de Truma sont interdits au même titre que la Truma elle-même. Umina, et nous apprenons entièrement les lois de Truma, des lois de Bikurim. Par conséquent, nous dirons Ma Bikurim Afilu Charminim. De la même manière qu'en ce qui concerne les prémices, les jus produits par les fruits sont interdits au même titre que les fruits, même lorsqu'il s'agit d'autres types de fruits, parce qu'il n'y a pas de restriction à ce sujet. Af Truma Nami, ainsi aussi en ce qui concerne la Truma, Afilu Charminim, même en ce qui concerne les autres types de fruits, à part les raisins et les olives, les liquides produits par la Truma seront interdits au même titre que la Truma. Rabbi Yoshua savar, tandis que Rabbi Yoshua pense, Doun mina, nous apprenons les lois de Truma, des lois de Bikurim, et nous disons donc, Ma Bikurim, Mashkin, Hayotin, Mehem, Kemotam, de la même manière qu'en ce qui concerne les prémices, les liquides produits par les fruits désignés comme prémices sont interdits au même titre que les fruits eux-mêmes, Af Truma, ainsi aussi en ce qui concerne la Truma, Mashkin, Hayotin, Mehem, les liquides produits par les fruits de Trouma, Kemotan, sont interdits au même titre que les fruits de Trouma eux-mêmes. Veoki Beatra, cependant, nous laissons les lois de Trouma dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Et nous dirons donc, Ma Mashkim Degdeshim Betrouma, de la même manière que, comme nous le voyons dans la Torah, les liquides qui peuvent être désignés comme Trouma, Tirosh, Vitz, Harin, c'est que le vin et l'huile, oui, Mideh Harina, l'eau, mais autre chose, non. En effet, la Torah nous mentionne comme liquide que le vin et l'huile pour la Trouma, Af Mashkin Hayotzin Mehem Kemotam, ainsi aussi, lorsque nous parlons de liquides produits par des feux de Trouma, qui seront interdits au même titre que la Trouma, Tirosh, Vitz, Harin, le vin et l'huile, oui, Mideh Harina, l'eau, mais autre chose, non. C'est-à-dire, la seule chose que nous pourrons apprendre, c'est que lorsqu'une personne a désigné des raisins ou des olives comme Trouma, puis les a pressés, le liquide produit par ces fruits seront interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. Mais s'il s'agit d'autres fruits, les liquides produits par eux ne seront pas interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. Nous préciserons cependant que Minatora, le prélèvement de la Trouma, n'est obligatoire que pour les raisins, les olives et les céréales. Pour les autres produits de la terre, l'obligation de prélever la Trouma n'est que Midrabanan. Cependant, comme nous savons que lorsque les Chachamim instituent une loi, ils suivent le contexte fixé par la Torah, c'est pour cela que, selon Rabbi Eliezer, puisqu'en général, lorsqu'on apprend quelque chose à un endroit, on l'apprend entièrement, par conséquent, si le prélèvement de la Trouma sur les autres fruits était Minatora, on aurait pu déduire que les liquides produits par ces fruits seraient interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. Par conséquent, lorsque les Chachamim ont institué le prélèvement de la Trouma des autres fruits, ils ont suivi le même principe. Par conséquent, les liquides produits par ces fruits de Trouma seront interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. Par contre, selon Rabbi Yoshua, puisque même si le prélèvement des autres fruits était Minatora, les liquides produits par les autres fruits n'étaient pas interdits au même titre que les fruits eux-mêmes, lorsque les Chachamim ont institué le prélèvement de la Trouma des autres fruits, ils ont suivi le même principe. Par conséquent, selon lui, les liquides produits par les autres fruits de Trouma ne seront pas interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. La Gemara demande, Vehadetnan, en ce qui concerne ce qui est enseigné dans cette Mishnah, dans Maseret Trumot, Perek Yudalef, Mishnah Gimel, En Mevi'in Bikurin Mashke, on ne peut amener pour les prémices des liquides, et là, Hayotse Min Hazetim ou Min Anavim, que ce qui est produit par les olives ou par les raisins. Autrement dit, pour les prémices, on ne pourra amener que de l'huile et des raisins. Forcément, il s'agit de raisins ou d'olives qui ont été pressés après que les fruits eux-mêmes ont été désignés comme prémices, parce que comme nous l'avons dit précédemment, on ne peut pas désigner des liquides pour les prémices. Alors la question se pose, Mané, quel est l'auteur de cette Mishnah? L'Agma répond, Rabbi Yoshuaï, c'est Rabbi Yoshua, Dehamar qui a dit, comme nous l'avons dit précédemment, Dulmina Veoki Beatra, lorsque nous apprenons quelque chose d'un endroit, nous le laissons dans le contexte dans lequel il se trouve. Par conséquent, nous avons appris que les liquides des fruits de Trouma, à part ceux produits par les raisins et les olives, ne sont pas interdits au même titre que les fruits eux-mêmes. Vegamar lehu le bikurim et Trouma, puis par le Hekesh, la juxtaposition que nous avons vue plus haut, Rabbi Yoshua apprend les lois de Bikurim des lois de Trouma, et il apprend donc que de la même manière que les liquides produits par les fruits de Trouma ne sont pas interdits au même titre que les fruits eux-mêmes, à part ceux produits par les raisins ou les olives, ainsi aussi il en sera pour les Bikurim. Par conséquent, on ne pourra offrir pour les prémices que des liquides produits par les raisins et les olives, donc uniquement de l'huile ou du vin. La Gemara demande, Vehadetnan, en ce qui concerne ce qui est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Trumot, Perek Yudalef, Mishnah Gimel, En Sofgin et Harbaim, une personne ne sera condamnée à une peine de flagellation, Mishum Orla, pour avoir consommé des fruits de Orla, produits pendant les trois premières années qui suivent la plantation de l'arbre. Ces fruits sont interdits à la consommation. Alors, une personne ne sera condamnée à une peine de flagellation pour avoir consommé des fruits de Orla, et là, al hayotse min hazetim ou min anavim, que sur des liquides produits par les olives ou par les raisins. Mais s'il boit un autre liquide, il ne sera pas condamné à une peine de flagellation. Mané, quel est l'auteur de cette Mishnah? L'Agma répond Rabbi Yoshuaï, l'auteur de cette Mishnah est Rabbi Yoshua. De amar dun mina veoke beatra, lorsqu'on apprend quelque chose à un endroit, on le laisse dans le contexte dans lequel il se trouve. Par conséquent, comme nous l'avons dit plus haut, les liquides produits par les fruits de Trouma ne sont pas interdits au même titre que que la Trouma elle-même, à part ce produit par les raisins et les olives, Vegamar lehu le Bikurim mituma, puis après, comme nous l'avons dit plus haut, il apprend les lois de Bikurim des lois de Trouma. Par conséquent, nous avons appris qu'on ne pourra offrir pour les prémices que des liquides produits par les raisins et les olives.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.